Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je m'appelle Boris, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 37 ans et je suis originaire du Cameroun. Faire un témoignage, c'est toujours un peu difficile car on doit parler de la personne en question et avec des termes plus ou moins bien choisis. Et c'est encore moins évident quand il s'agit de soi-même. Alors moi, je suis né au Cameroun et je suis venu en France, j'avais à peine 3 ans. Mon enfance n'a pas été de tout repos et effectivement, j'ai vécu une enfance assez mouvementée, en tant que noir bien sûr déjà, d'une part, et d'autre part, habitant dans un quartier qui n'était pas huppé, dans un quartier un peu difficile. Et dans ce genre de quartier, il faut se faire une place, non seulement à l'école, mais aussi dans son propre quartier. Et le seul endroit où je pouvais me sentir à mes aises, c'était à la maison. Mais c'est avec beaucoup de peine que je dis cela et c'est le dernier endroit, la maison, que j'avais envie de rester. Je n'évoquerai pas le passé douloureux et gênant par respect pour mes parents. Mais qu'ils sachent aujourd'hui que si j'étais souvent dehors et que je ne voulais pas rentrer, c'était en partie à cause d'eux. Je veux que vous sachiez néanmoins que ce n'est pas un jugement envers vous, ni même une condamnation, c'est juste un ressenti que j'ai toujours gardé au fond de moi. Et Dieu seul sait combien de ressentis sont multiples, ils sont multiples et divers. On a eu de nombreux différends et me gérer mon éducation à moi, ça n'a pas été... Ça n'a vraiment pas été facile pour vous, ça je le sais, et j'en suis très très conscient. Donc oui, j'ai trouvé du refuge, pas à la maison, mais plutôt à l'extérieur, au quartier, avec des amis, avec des mauvaises fréquentations. Et à partir de là, j'ai commencé à vaciller, où j'ai commencé des bagarres, des violences. Et j'étais pas un enfant... Un enfant droit, j'étais plus ou moins un petit délinquant. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai dormi en cellule ou bien pour des faits justement de délinquance ou des mineurs. J'en ai enchaîné tellement que je pourrais faire un livre même sur ça. Je me suis fait renvoyer des établissements scolaires et plusieurs fois aussi je me suis retrouvé devant le juge d'instruction pour éviter des peines. En parallèle, religieusement, ça allait plus ou moins parce qu'avec mes parents, on est allé à l'église catholique et on priait. On avait même une chorale où ça se passait très bien. On allait à Lourdes, un lieu de pèlerinage où on faisait un petit séjour et ça me détendait, moi, parce que c'était un coin qui était très paisible, un coin où voilà, on pouvait se recueillir et pour moi, personnellement, m'évader. Malheureusement, ce coin, une fois que je rentrais, l'appel de la rue, ça me ramenait à la réalité et je retombais très très vite dans mes travers. Alors, lors d'une ultime gaffe irréversible, mes parents avaient pris la décision radicale de me ramener dans mon pays d'origine, le Cameroun. Et c'était comme une punition, c'était ma punition. Évidemment, ce voyage fut déguisé en voyage d'été. C'était pas, ils m'ont pas dit, viens, on part au Cameroun, tu vas rester. Ils m'ont pas dit ça comme ça, ils m'ont dit, viens, on va faire 3 semaines, 1 mois, on va passer des vacances et tout devait se passer. Donc moi, j'étais content, j'allais prendre l'avion. Certes, pour la deuxième, troisième fois, mais c'était ma terre, donc j'étais content d'y aller. Et une fois arrivé, j'ai passé 3 semaines, 1 mois, si je me rappelle bien. Et ouais, tout se passait vraiment bien. Après le retour de mon père, enfin, je suis parti juste avec mon père. Et lors de son retour, il me dit que tu vas rester. Donc je ne comprenais pas vraiment, j'étais encore très jeune, j'avais à peine 17 ans. Ouais, 17 ans. Et il m'a dit, bah, tu vas rester et tu vas revenir après. Moi, je lui demande, mais comment ça? C'est pas possible, comment je puisse... On est venus ensemble, pourquoi tu veux me laisser? Si on vient ensemble, on part ensemble. Il me dit, non, t'inquiète, c'est juste... Tu es là, t'es en famille. Moi, je pars et je reviens. Bon, j'ai dit, ok. Mais finalement, les 3 semaines, à la base, c'est... Les 3 semaines ont duré, c'est passé 3 semaines à un an à plusieurs années. Et la première année, ce fut très difficile pour moi. Je me trouvais désormais dans un monde inconnu. Je ne connaissais personne, plus d'amis, plus de visages familiers, plus ma fameuse rue, entre guillemets, et je me sentais si bien de cette rue-là, mais malheureusement, elle n'était plus là. Et du jour au lendemain, je devais m'adapter à une nouvelle vie. Je vivais chez le grand frère de mon père. Il est militaire de formation. Voilà. Donc, vous pouvez déjà imaginer à peu près le traitement, la formation qui allait suivre. Et il m'a dit, lui, sa mission, ce sera de me redresser. Parce qu'il avait appris que Pablo Escobar, c'était moi, en fait. J'ai dit, ok. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que mon séjour allait être très très pénible et très long. Le week-end, je me retrouvais très souvent dans les travaux champêtres. On avait à peu près 20 hectares, 15 à 20 hectares, et on y allait chaque week-end. Ouais. On avait une palmeraie à huile, on pressait l'huile rouge, c'était notre, la petite affaire de mon oncle. Et je travaillais pendant des journées interminables sous une chaleur d'enfer. Et lors des récoltes, je rentrais avec des sacs de vivres sur la tête, sur des kilomètres et des kilomètres. Et en semaine, je partais désormais à l'école à pied, puis en bus, environ à 3 kilomètres, sous un soleil de plomb et de routes pleines de poussière. Il y avait des salles de près de 100 élèves par classe et des cours très intenses et surchargés. Des professeurs qui nous rappelaient, qui rappelaient les élèves à l'ordre, à coups de chicotte, là-bas c'est comme ça. Et je me retrouvais très vite dans les mêmes problèmes. Moi qui n'aimais pas l'autorité, surtout faite avec violence. Je retombais très vite dans les bagarres avec des professeurs et élèves. Et à la maison, l'ambiance a été plutôt bonne. Jusqu'à ce que se perde quelque chose. Peu importe la chose qui se perdait dans la maison, mon oncle disait que c'est Pablo Escobar, donc moi. Une bouteille d'huile disparaît, c'est Pablo Escobar. L'argent disparaît, c'est Pablo Escobar. Même une bouteille de... un liquide de vaisselle, c'était toujours moi. Donc, le seul moyen où j'avais du répit, c'était quand je pratiquais ma passion de football que j'aimais tant. Et je me sentais libre. Allô? Vous m'entendez? Ok. Donc à ce moment-là, je me sentais très libre au stade, aux entraînements ou lors d'un match, parce que je voyageais souvent pour jouer dans d'autres villes. Je voyageais dans d'autres villes pour jouer au foot. Et c'est à ce moment-là où je me sentais vraiment, vraiment libre. Malheureusement, quand je rentrais, ou bien que je me faisais griller, c'était des problèmes à la maison. Mais peu importe, pour le foot, je pouvais subir toute représaille. La vie suivait son cours, et comme si ça suffisait pas pour ma santé, elle s'était considérablement dégradée. J'avais eu la typhoïde, et j'avais passé presque plusieurs mois, en tout cas à l'hôpital, je ne me rappelle plus très bien. Mais j'avais perdu énormément de poids, j'avais peur pour ma santé, pour ma vie. C'était dû au fait de changement climatique. Je crois que c'était à cause de l'eau et des choses que je mangeais là-bas. Donc, j'ai passé plusieurs mois gravement malade. J'avais perdu énormément de poids et voyais même la mort à chaque fois que je succombais au sommeil. Car en effet, je m'étais privé de sommeil, de peur qu'elle m'emporte. Mais rappelez-vous que je vous ai dit qu'il était question que je reste et passe mon examen pour rentrer. C'était un peu la condition. Parce qu'on m'a fait savoir après que bon, il faut que tu passes ton examen, tu reviens en France. Donc, je me suis mis en mode étude et très sérieux. Malgré toute la fatigue et malgré les travaux champêtres interminables et pénibles, j'ai dû apprendre. Et en fin d'année, j'avais eu mon examen. Le BPC. C'est un examen qu'on fait en troisième. Et moi, tout exalté, enthousiasmé, j'étais content. Donc, je viens vers eux, je leur dis, ben, moi, j'ai eu mon examen, je veux rentrer. Malheureusement, ils m'ont dit de rester encore une année supplémentaire, le temps d'avoir mon probatoire. Le probatoire, c'est un autre examen qu'on fait en première au Cameroun. Je ne sais pas si on a fait ça ici en France, mais avant, à l'époque, on le faisait au Cameroun. Et avant d'arriver au bac, il fallait passer par là. Donc, cet examen, je l'ai eu avec brio. Je viens tout content, je leur ai dit, ben voilà, j'ai encore eu un examen. Ils me disent, c'est très bien, mais passe ton bac, après tu rentres. Donc, une fois de plus, je me suis mis à l'école encore, et en fin d'année, j'ai eu mon bac, avec mention en plus. Ils m'ont dit, vraiment, félicitations, t'es brave, t'es très brave. Tu vas rentrer, mais passe tes examens universitaires. Après, tu rentres. Donc, une fois de plus, je me suis mis en mode études. J'ai passé mon BTS, puis ma licence et mon master que j'ai eu en logistique et transport. Je viens vers eux, je leur dis. J'ai eu mon examen, j'ai eu tous mes examens. Donc j'ai envie de rentrer maintenant. Ils m'ont dit, passe ton doctorat. Là, j'ai dit, non, ça va, c'est bon, c'est trop. Vous mentez, là, depuis, vous abusez. Et à la base, le contrat était d'un an, même pas, en fait. À la base, il n'y avait même pas de contrat. À la base, c'était juste des vacances que je devais passer et puis rentrer. Et là, je me retrouve en train de faire 12 ans. J'ai fait 12 ans finalement au Cameroun, 12 années de souffrance, 12 années de douleur, 12 années de confusion, 12 années de sentiments de rejet et d'abandon par ma famille. J'en voulais vraiment à mes parents de m'avoir ramené et de m'avoir laissé. Je me demandais pourquoi ils m'appellent peu, ils m'appellent très peu, et pourquoi ils semblaient si indifférents à ma situation. J'en voulais à la terre entière, sauf à ma sœur Flora, qui a toujours été là. Et elle me remontait le moral toutes les fois où j'étais à terre. Vous savez que généralement, dans ces cas, dans ces moments très difficiles, eh ben, on se rapproche facilement de Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le connaître. J'ai commencé à prier avec lui. J'ai commencé à me retrouver et à l'étudier, à savoir qui il était. Je savais qui était Jésus, lui qui est mort sur la croix pour la rémission de mes péchés, de nos péchés. J'acceptais que je vivais dans le péché et que mes choix m'avaient mené à la mort. Et que pour naître de nouveau et avoir la vie éternelle, je devais croire en lui et me baptiser. Seulement, j'ai toujours refusé de le faire. Et ce, malgré les appels incessants de Dieu via des pasteurs ou à travers mes frères et sœurs, à travers mes parents même, à travers des amis. J'avais toujours refusé de le faire parce que je savais que je n'étais pas prêt. Je ne voulais pas vivre dans l'hypocrisie. Alors j'ai continué ma vie. J'ai continué un jour dans le péché et le lendemain à demander pardon. Le chemin pour me décider a été si long et comme je disais, j'ai continué ma vie. En effet, je me suis retrouvé en Ukraine en tant qu'étudiant. C'était la seule voie que j'avais trouvée après multiples tentatives de revenir en France. J'avais essayé le Canada, j'avais, sans succès malheureusement, j'avais essayé la Belgique et même la France et ça n'a pas marché. Donc la vie a été bien plus dure là-bas qu'au Cameroun, en Ukraine. Parce que là-bas j'étais sans famille, j'avais pas de repère pour m'orienter, j'étais seul face à mon destin. Il fallait vivre et payer mes factures. Alors j'étais maçon le lundi, plombier mardi, balayeur de route le mercredi, manœuvre le jeudi, etc., etc., etc. J'ai tout fait là-bas, absolument tout. Et ça, c'était dans un froid glacial. Mais jusque-là, ma croyance en Dieu n'était pas assez forte pour me baptiser et vivre sous ses enseignements. Malgré les souffrances qui se multipliaient et le fait que Dieu m'éprouvait, ce n'était pas assez dur pour moi, car tout ce qui m'arrivait, je le remettais toujours sur son dos et me demandais pourquoi moi. Tous les matins à mon réveil ou les soirs sur mon lit, je me demandais pourquoi je devais passer par toutes ces souffrances, toujours plus intenses les unes que les autres, et tous ces sentiments péjoratifs de mal-être qui s'accentuent en moi. La seule à qui je n'en voulais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était ma sœur, car en effet, elle a toujours été là pour moi et pour me soutenir. Quand allais-je avoir du repos? Je m'obstinais dans ma têtutesse et de plus en plus, j'en voulais à Dieu. Je voulais savoir pourquoi j'avais pas droit au bonheur comme les autres, pourquoi je n'avançais pas et j'avais toujours pas de statut ni de travail, pas d'argent, pas de femme, pas d'enfant, rien, absolument rien. Et en Ukraine, j'ai subi à peu près tout. J'ai subi le racisme, les injustices. Mais malgré ça, je ne me suis pas tourné vers Dieu. Même les salaires impayés, parce que je travaillais franchement, et on nous arnaquait, on nous payait pas parfois. Même ça, ça ne m'a pas ramené vers Dieu. Les problèmes de logement, ou encore même de papier, rien. Je ne me suis pas tourné vers Dieu. Bref, j'ai vécu une vie assez difficile là-bas. Et pour moi, il était la cause de mes malheurs, car il était le seul à pouvoir claquer des doigts et changer ma vie s'il le voulait. Mais non, il m'éprouvait plutôt quotidiennement et à chaque fois plus durement. Un jour, sur une simple photo, j'ai vu une femme, alors que je l'avais jamais rencontrée et je savais qu'elle devait faire partie de ma vie. Et dans une énième prière, espérant que Dieu m'exauce, je lui demanda de réaliser mes souhaits et de me donner enfin le bonheur que je méritais ainsi que je lui rendrai grâce tous les dimanches avec ma fiancée, ma future fiancée, cette femme-là, et je vivrai sous ses enseignements divins. Quelque temps, j'ai vécu avec cette femme en question et nous faisons nos vies, nos projets, on les faisait ensemble, réciproquement. La vie, pour moi, était devenue un peu plus belle. Elle était devenue si paisible. Et sa venue à elle coïncidait avec l'obtention d'un emploi à la hauteur de mes diplômes et de mes capacités intellectuelles. Dans le même temps, j'avais enfin trouvé un club de foot, parce que j'ai continué à jouer au foot là-bas. Et malgré que ce n'était pas très bien payé, mais ça me permettait d'arrondir les fins de mois et de pouvoir me gérer. La vie, en vrai, n'était pas plus facile, mais j'avais un but désormais dans la vie, une motivation, quelque chose pour qui je pouvais me lever, quelqu'un pour qui je pouvais me lever et combattre sans ressentir cette pression et cette souffrance sur mes épaules. Donc pour moi, tout se passait très bien. Je vivais enfin la vie dont je rêvais et avais trouvé ma place. Le Seigneur m'avait exaucé. J'avais la femme que je voulais, le travail à la hauteur de mes diplômes, le sport que j'aimais plus que tout, et plus de paiement de loyer en retard. Bref, j'étais plus qu'heureux. Jusqu'à cette date du 24 février 2022, à 4h55, alors que je dormais paisiblement, il y a eu 5 bruits sourds et assourdissants qui ont retenti en Ukraine. La Russie venait d'envahir l'Ukraine. C'était la guerre. Dès le lever du jour, les habitants voisins fuyaient le territoire. Chacun fuyait le désastre et la mort. Je tentais de garder mon calme et espérais que ça n'allait pas escalader davantage. Donc, je décida de rester. Mais plus les jours passaient, plus la pression augmentait. Aussi bien dans les médias que sur les terrains. J'avais peur. L'atmosphère était invivable. J'étais obligé de me résoudre à tout laisser. Moi qui avais mis énormément de temps à construire quelque chose, et au bout du compte, j'étais obligé d'abandonner tout ce que j'avais construit. Alors on décida, elle et moi, nous décidâmes de quitter le pays et fuir vers la frontière de la Pologne. Le voyage fut long et périlleux. Il fallait faire face au froid, à la peur constante qu'une bombe tombe sur nos têtes, mais en plus, faire face à l'humain et ses tares. C'est tard parce que à l'entrée des frontières, je crois que vous avez tous vu à la télé, je ne vais pas détailler, mais il y avait des, on nous a bloqués, on ne devait pas passer. Donc à la frontière, on a fait plusieurs jours de marche. Et finalement, il y a un adage qui dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des Ukrainiens avait fait un peu mon bonheur. Je suis blessé parce que l'Ukraine, ils sont en guerre. Je suis blessé pour le peuple ukrainien. Je suis blessé pour tous ces morts, que ce soit ukrainien ou russe. Ça fait mal de savoir que de vivre et de vivre paisiblement et de tout perdre du jour au lendemain. Mais j'étais aussi heureux d'une part parce que après 20 ans, 2002, j'ai quitté la France. Après 20 ans, 2022, je revenais vers la terre promise, entre guillemets. Après 20 ans, j'ai quitté la France. 20 ans, 20 très longues années, je me retrouve à nouveau sur la terre promise, effectivement. Mes émotions étaient mitigées. Déçu parce qu'il est arrivé en Ukraine et ce que j'avais laissé. Et heureux de revoir enfin ma famille, ma sœur, avec qui on n'a jamais cessé d'être très proche, mes neveux, ses enfants. Et j'étais vraiment très très content de revoir mes parents. Ça faisait super longtemps, je ne les avais pas vus. Ma mère était très contente. On causait souvent au téléphone, elle me disait, viens, on va manger. Dès que tu es là, tu vas manger. Et justement, je suis arrivé. Et finalement, même manger, j'arrive même plus. Et une fois installé, ça s'est enchaîné. La vie, elle s'est enchaînée très vite. Parce que ma fiancée, à peine arrivée, elle est partie. Et elle a eu la brillante idée, effectivement, de me laisser. Et alors que j'avais tout perdu. Mon chez-moi, mon indépendance, toute ma stabilité, j'avais tout perdu. Et cette rupture, je l'ai vécue extrêmement mal, au point où je ne mangeais plus du tout. Je ne dormais plus, mon cerveau était en constant éveil à penser à elle et à repenser à comment cela a pu arriver. J'avais vécu de nombreuses épreuves jusqu'ici. Mais celle-là, c'était celle que j'arrivais pas du tout à gérer. Je me consumais de l'intérieur et faisais une dépression. Avant, je me disais, par rapport à la dépression, je me disais que c'est... Enfin, moi, personnellement, je suis une personne forte. Et c'est des choses que je me dis, ça peut pas m'arriver. C'est impossible. Finalement, j'en ai fait une. Et je me demandais comment un être pouvait avoir une telle influence sur ma vie et blesser mon propre cœur. C'est le mien. Mais comment toi, la personne qui est en face, tu peux régler. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis content. Demain, je suis brisé. Et cette période fut atrocement... Je l'ai vécu vraiment de façon atroce. Heureusement, mes parents, ils étaient là. Ils m'ont soutenu, ma mère m'a soutenu, mon père, il était... Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette période. Ma sœur, comme d'habitude, un ange, c'est mon ange gardien, Flora, avec elle. En fait, comme sœur, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Et elle a toujours été là, elle. Elle m'a remonté le moral. C'est mon éternel ange gardien. Elle a toujours trouvé les bons mots pour me faire revenir à la réalité. Je commençais à prier Dieu et lui demander de la faire revenir. Je parle de ma fiancée. Et lui promis d'être un fidèle serviteur. Plus que jamais. Et que jamais plus je m'égarerai. J'ai même jeûné pour ça, alors que jamais auparavant je l'avais fait. Donc, pour résumer un peu, vous voyez un peu le pouvoir de la femme. La femme peut vous faire des choses que jamais avant vous pouvez imaginer. J'avais jamais jeûné, mais à cause d'elle, j'ai jeûné. Et malheureusement, elle ne revenait pas. Enfin, malheureusement ou heureusement, elle ne revenait pas. Elle était vraiment partie. Cependant, dans le même temps, à force de prier, je ressentais une paix, la paix du cœur. Je dormais mieux. La boule au ventre qui me faisait avoir peur avait disparu. Je pensais de moins en moins à elle et arrivais à me concentrer sur d'autres objectifs. Mais surtout sur Dieu. Bizarrement, je venais de perdre la chose à laquelle je tenais le plus au monde et je n'en voulais même pas à Dieu. Alors que toutes mes années, c'était lui le fautif. Cette fois-ci, c'était différent. Je commençais à être discipliné dans la prière et me rendais compte que j'étais de mieux en mieux. Il était mon refuge, mon berger. Et c'est à ce moment-là que ce psaume du roi David, ben, il prend tout son sens. Et l'Éternel est mon berger, c'est ça le psaume. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me fait reposer sur des verts pâturages. Il se dirige dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il m'aimait et que peu importe tout ce que je peux traverser ou perdre, je pouvais compter sur lui. À ce moment, je demandais donc pardon à Dieu et lui dis, Seigneur, je suis revenu à toi par pur égoïsme, car je voulais que tu fasses revenir cette femme dans ma vie. Mais désormais, je veux rester par amour pour toi et te servir. Accepte-moi dans ton royaume. Je pensais à toutes les fois où j'avais refusé de me baptiser, mais cette fois-là, j'étais prêt. En tout cas, je le voulais fortement. Je lisais la Bible et un jour, je tomba sur un passage de Moïse et le peuple d'Israël qui ont erré pendant 40 ans. Je crois que c'est Nombre 14. Je pense à toutes ces années où j'avais moi-même erré, parce qu'ils ont erré 40 ans dans le désert pour trouver la terre promise. Malheureusement, pendant 40 années, le Seigneur leur avait fait errer parce que Israël avait douté de Dieu. Et je mettais en parallèle ma vie, moi qui avais erré 20 années, où je doutais du Seigneur, où je doutais de sa puissance et de sa grâce. Ce passage m'a fait prendre conscience de mes 20 années d'errance. Ces 20 années d'errance, pour moi, c'était pas le fait d'avoir voyagé, de rentrer au Cameroun, l'Ukraine, ou alors même quand je rentrais, je passais par plusieurs pays, c'était pas ça. Pour moi, ce désert-là, c'était toutes les épreuves que j'ai subies durant tout ce temps, les multiples obstacles que j'ai endurés, les divers ressentis que j'ai encaissés, car c'était ma marche dans le désert. Et ma terre promise, c'était pas d'arriver en France après 20 ans, mais plutôt d'accepter Jésus comme mon sauveur, lui qui est mort sur la croix pour mes péchés et la multitude de mes péchés. Il a déjà payé le prix, j'ai juste à l'accepter. Ainsi, j'ai pris la résolution de me baptiser et de suivre le Christ, de l'accepter. Parce que la vie éternelle, elle se tend vers moi. Cette décision était d'une réjouissance dans les cieux et sûrement perçue comme un mal ici-bas, dans le monde, car Satan lui y veille. Et je rentrais une fois de l'église, d'ailleurs, j'étais dans le C8, j'avais la Bible en main, et j'ai vu une femme que je ne connaissais pas du tout. Elle me voit, elle me dit, dans le bus, elle me dit, tu sors de l'église? J'ai dit oui. Elle me dit, ben, fais très attention à toi parce que tu vas être tenté et fortement tenté. On a discuté un peu tout et de rien. Après, elle est partie, je ne la connaissais pas. Et on ne s'est même jamais plus revu. Et j'ai eu des tentations après ça. Des petites tentations, je résistais quand même. Jusqu'à un matin où j'accompagnais mes parents au Cameroun. Justement, ils rentraient, ils partent en vacances. Et j'ai reçu à 4h, c'était peut-être 4h ou 5h, j'ai reçu un message où il y avait des photos. Il y avait des photos de mon ex qui se mariait. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment pris de colère. Et je me demandais, mais Seigneur, pourquoi moi, j'ai fait le pas vers toi? Je prie. J'essaie de m'adonner vers toi. Mais jusqu'aujourd'hui, pas de bonheur, rien du tout. Par contre, elle, qui m'a fait tant de mal, qui sûrement ne prie pas, qui ne s'adonne pas à toi, je ne la juge pas du tout, je ne connais pas ce qu'elle fait. Mais elle a ce bonheur-là, la voilà qui se marie. Et j'en voulais énormément à Dieu à ce moment-là, encore une fois, malgré que j'avais dit oui à Dieu. J'appelle ma sœur comme d'habitude, Flora. Il était 7h, on a fait 3h, 4h au téléphone. Et pour la première fois, elle me grondait. Elle ne m'avait jamais grondé. Depuis qu'on est petit, elle ne m'a jamais levé la voix. Et elle n'acceptait pas le fait que j'avais des propos durs envers le Seigneur. On a discuté 3-4 heures. Elle a raccroché. Après, il y a eu Chantal qui m'a appelé. Elle me disait, Boris, calme-toi. Bref, on a discuté, elle a trouvé aussi les bons mots pour me calmer. Et au bout de 3-4 jours, j'ai demandé encore pardon à Dieu et je suis revenu à lui. C'est un peu comme ce que Jérémie disait tout à l'heure, où il disait que il a un scoop pour vous. C'est pas parce que je vais tomber dans cette baignoire aujourd'hui que je vais devenir le Saint des Saints. Je suis préparé à ce que le Satan vienne et me tente. Je pense même que je serai tenté tous les jours et je pense que je vais chuter. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, je pense que c'est de se relever et de continuer avec Jésus-Christ. Il est là, il nous a sauvés. Il m'a sauvé moi aujourd'hui. Je m'apprête à franchir une étape que longtemps, pendant 20 ans, j'ai hésité à le faire. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que je vais faire ce geste symbolique aujourd'hui. Et je remercie vraiment, vraiment, vraiment tous les gens qui m'ont accompagné. Je remercie mes parents qui, grâce à cette décision de m'avoir ramené au Cameroun, ça a été une très bonne idée finalement. Et je vous remercie pour ce que vous êtes, pour tout ce que vous m'avez apporté. Sans vous, sincèrement, je pense que je ne serais même pas là aujourd'hui. Peut-être que je serais mort ou quelque part ailleurs, je ne sais pas. Je remercie ma petite sœur d'avoir toujours été là, mon ange gardien. Je remercie les anciens, Jean-Léonel, Colin, Jérémy aussi, Nasser. Ils ont prié pour moi, ils m'ont guidé. Ça m'a beaucoup fortifié et ça m'a donné le chemin à suivre. Je remercie aussi David, qui malheureusement n'est pas là. C'est lui qui a été mon guide, il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et franchement, merci pour tout. Donc je voulais vous laisser avec une prière, parce que je voulais prier pour moi, si vous permettez. Seigneur, aujourd'hui, je te remercie déjà pour le souffle de vie que tu m'as donné, Seigneur. Aujourd'hui, je ne mérite pas toute ta bonté, toute ta grâce, mais tu m'as fait don de ça, Seigneur. Me voici qui vais passer un cap, et je sais combien les cieux aujourd'hui se réjouissent. Ils se réjouissent parce que je fais partie de tes enfants, Seigneur. Je prie afin que tu puisses m'accompagner tout au long de ce chemin, et que Jésus-Christ, je sais que tu es la vie, tu es la vérité, tu es la lumière. J'aimerais que tu me guides dans ce sentier qui ne sera pas de tout repos. Aide-moi à franchir chaque obstacle afin que je ne puisse te décevoir, Seigneur. Je prie aussi pour vous qui êtes là, en espérant que ceux qui n'ont pas franchi le pas puissent le faire aussi, puissent accepter Dieu comme Jésus-Christ, comme Sauveur, comme lui qui est mort sur la croix, qui a versé son sang précieux sur la croix pour nous, pour la rémission de nos péchés, qui puisse vraiment, que vous puissiez vraiment faire ce pas-là, comme moi je le fais aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, Amen.